des chefs de la synagogue, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus, qui l'avait entendu, et une version dit ceci, sans tenir compte de ses paroles, voilà, ne dérange plus le maître, mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean, Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte, mais il les fit tous sortir, littéralement, il les expulsa. Fort, hein? Il les chasse à lui dehors, il les expulsa. Elle prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi, son esprit revenant d'elle, elle se leva immédiatement, j'ai fait au-delà de lui donner à manger. » Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement, ils ne recommandèrent de dire à personne ce qui était arrivé là. Alors, dans les trois récits qu'on va partager ce matin, on va savoir où la situation s'est passée, et puis surtout, comment Jésus a-t-il ressuscité ? Et puis, quels sont pour nous les enseignements du quotidien que l'on peut tirer dessus de ces textes ? Alors, ce premier texte nous parle que la scène se situe au bord du lac de Galilée. Moi, je ne sais pas si certains ont été déjà en Israël, hein, sur le lac de Galilée, certainement à proximité de Capernaum. C'est une petite carte, hein, vous voyez le lac de Galilée, Capernaum, qui est un petit peu au nord-ouest, parce que Jésus vient de quitter donc le pays des Gadaréniens, qui est à l'extrémité. Et là, hein, on le sait, bien, il a notamment libéré un possédé de plusieurs démons. Et Jésus a une parole pour cet homme, il va le chier et dire non, va dans la Décapole, va dans cette région et sois un témoin. Bon. Je crois que ça, après, il y a beau rencontrer le Christ ressuscité, simplement parfois à habiter. Il y a de prêcher et d'aligner des versets bibliques les uns après les autres. On peut le faire aussi, hein, c'est pas un problème. Mais raconter, dire avec nos mots, notre expérience, hein, ce que Jésus a fait. Et c'est un des plus bons messages qu'on puisse partager, raconter ce que Jésus nous a fait. Et donc, en revenant, en retraversant ce lac du Galilée, il y a une attente. Il dit ceci, bien que la foule était dans cette attente. La foule l'attendait. Alors j'imagine que certains sont venus pour être gays, très très concrètement, donc peut-être pour écouter l'enseignement de Jésus, hein, c'est un prophète, etc. Donc peut-être par curiosité, hein, ils ne savaient pas trop quoi faire le jour-là, donc pourquoi pas. Et puis donc peut-être aussi pour rapporter ensuite ces paroles à des religieux. Pour faire un petit peu comme les espions, en tout cas, quoi qu'il en soit, chacun a un besoin particulier, une attente particulière. Et ce matin, on pourrait se poser cette question, mais quelle est mon attente? Quelles sont nos attentes ce matin de la part de Jésus? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Une guérison? Pourquoi pas? Une réponse à une prière? Une solution à une épreuve? Une orientation pour notre vie? Quelque chose d'autre? Nous aussi, nous sommes dans cette attente et nous l'attendons et nous attendons que Jésus vienne, nous attendons que Jésus nous parle. Nous sommes également comme cette foule dans cette attente. Et dans ces moments, eh bien, chacun finalement est venu avec ses propres besoins. Si on imagine comment Dieu nous voit ce matin, c'est extraordinaire. Hein, on est plus de presque 8 milliards, plus de 8 milliards maintenant, je ne sais plus. Hein, combien on est, c'est le compteur, mais est-ce qu'on peut rêver ce matin que Dieu voit chacun d'entre nous avec nos propres besoins? 8 milliards de personnes, sur toute la surface de la Terre, avec une culture différente, une approche même de lui différente. Et pourtant, Dieu connaît exactement tous nos besoins. Dans cette attente. Et ainsi, bien, ce matin, Jésus veut nous surprendre. Il peut nous surprendre quant à la manière dont il va nourrir notre foi. Cette foule s'attendait certainement à avoir un enseignement un peu classique, hein, comme les autres fois, Jésus qui est là, qui enseigne, qui guérit, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu encore qui va se produire. Et ici, ça va se passer à travers une guérison, non seulement une guérison, hein, mais plus une résurrection. Alors, il y a la guérison de cette femme, bien sûr, qui est déjà un miracle. Et puis surtout, bien sûr, la résurrection de la fille de Jairus. Pour nous, rappelons-nous déjà ce matin que Dieu est plus grand que toute la somme de nos problèmes, que toute la somme de nos difficultés, que toute la somme de ce que nous pouvons vivre, qu'il a tout pouvoir pour susciter la foi d'une manière inattendue. Il a tout pouvoir pour ressusciter notre foi. Il a tout pouvoir ce matin pour nourrir notre foi d'une manière inattendue. Cette foule s'attendait peut-être à un schéma particulier de la part de Jésus, mais Jésus allait surprendre par la guérison de cette femme et puis la résurrection de cette fillette. Comment ici, Jésus arrive-t-il à cette résurrection? Bien, c'est suite à la demande de Jairus, le père de la fillette. C'est Jairus qui va faire une demande. Et si on lit le texte rapidement, bon, on se dit, c'était facile, il savait où était Jésus, puis il va aller le voir. Mais il y a quand même certains détails qui nous montrent que cette demande, elle est quand même courageuse de sa part. Pourquoi? Parce que cette demande peut causer des problèmes à Jairus. Jairus est un des responsables de la synagogue. Et en effet, les pharisiens, dès le début du ministère de Jésus, espionnent son enseignement, refusent sa divinité. Et finalement, tous ceux qui font appel à lui sont mal considérés. Et le risque pour Jairus, c'est que désormais, il soit mal considéré. Qu'on va dire des choses sur lui. Vous vous rendez compte, le responsable de la synagogue qui s'adresse à Jésus de cette manière devant tout le monde. Et ça va certainement dans les milieux autour de Jairus, faire le buzz. Mais peu importe pour Jairus, il est prêt à tout abandonner, il est prêt à tout laisser, sa notoriété, sa position, face à l'urgence dans laquelle se trouve sa fille. Et Jairus fait le bon choix. La vie de son enfant est bien entendu plus importante que tout le reste. La vie de son enfant est bien plus importante que tout le reste, que tout le candidat-on, que tout ce qu'on pourra dire sur lui. Jairus, à ce moment, il est courageux. Et il dit, la vie de ma fille vaut bien plus que tout ça. S'approcher de Jésus, demander à Jésus, peut aussi parfois susciter autour de nous des réactions de rejet, de mépris, hostile, de moquerie autour de nous. Mais Jésus dira, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, j'aurai aussi honte de lui. J'aurai aussi honte de lui. Et on va voir que ce matin, Jésus, par sa parole, va manifester cette résurrection. Je vois que les enfants sont là, ils sont prêts. Ils vont venir maintenant, c'est bon. Oui. Et comme ça, on va passer l'histoire. Bon, on va le suivre, vous allez voir. Des fois, de temps en temps, on fait une déstabilité un peu. Allez, les enfants, ils vont venir. Donc, après, ça, c'est vraiment de l'improvisation. Rien n'était préparé. C'est bien qu'ils puissent participer avec nous. Est-ce qu'ils sont prêts, Yves? Voilà. On revient donc à ce moment où Jésus se dirige, bien sûr, vers la maison de Jairus. Et là, là encore, le fil conducteur de ce matin, c'est que la puissance de résurrection de Jésus se manifeste toujours par sa parole.
À un moment donné, bien précis, où on vient lui dire, écoute, c'est pas la peine, c'est trop tard, ta fille est morte, n'importune plus Jésus. Et le texte dit, certains textes disent aussi, sans tenir compte de ses paroles. Il y a dans notre foi des paroles dont nous ne devons pas tenir compte. Comme Jésus. On doit dire ces paroles, Seigneur, je n'en tiens pas compte. Elles ne viennent pas de toi. Ce sont des paroles des paroles de mort, des paroles là aussi qui vont rien apporter de bon. Alors, je les refuse, je n'en veux pas. Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Et c'est dans ces moments, que Jésus va soutenir la foi de Jairus, à un moment bien précis où tout semble perdu. Et il y a une parole d'Hébreux 11, 1, qui reprend tout son sens à ce moment-là. Il est dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À ce moment-là, Jairus, un voile se met certainement sur ses yeux en quelques instants. Ta fille est morte, c'est fini. N'importune pas le maître. Mais la parole de Jésus va déchirer ce voile. La parole de Jésus va ouvrir à nouveau l'espérance de sa foi et Jaïrus va poursuivre le chemin avec Jésus. Et puis Jésus arrive et là, bien, il y aura une parole envers ceux qui pleurent. Alors, il y a certainement des pleureuses, on est en Orient, hein, il y a des pleureuses professionnelles qu'on invite, on les paye pour pleurer, etc. Bon, c'est une culture, hein, autour, il y a beaucoup de gens qui pleurent, etc. Et là, Jésus va leur dire, mais ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et finalement, Jésus donne l'occasion aussi à ces personnes de nourrir leur foi à ce moment-là. Mais elles ne veulent pas de cette parole. Ces personnes, au contraire, vont se moquer de lui. Et littéralement, à ce moment-là, Jésus va les expulser. Il va les chasser. On a ici la crédulité, la moquerie qui n'a aucun lien avec la foi. Et il y a aussi des moments dans nos vies où on doit, au nom de Jésus, expulser tout ce qui est moquerie, tout ce qui est incrédulité, etc., qu'on entend à droite, à gauche, comme Jésus. Jésus a expulsé ces personnes qui se moquaient de sa parole. Et on a dans le psaume 1, vous rappelez hein, certainement de cette parole du psaume 1, qui nous commence comme ça, « Heureux hein, ». Vous connaissez la suite, mais c'est une réalité aussi qu'on veut vivre. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » La parole de Dieu a autorité, c'est une puissance de résurrection, c'est une puissance de vie. Et ce matin, je veux m'en nourrir encore et toujours. Et Jésus donne l'occasion à ces pleureuses ici, de nourrir leur foi, mais ils refusent, ils n'en veulent pas. Et ils se moquent de lui, alors il les expulse. Alors il les chasse et va faire son œuvre de résurrection dans la foi. Et il va adresser maintenant une parole à la jeune fille. Hein, un autre évangéliste, Marc, Talita Kumi, hein, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et là, il y a cinq personnes privilégiées qui, avec Jésus, assistent à sa résurrection. Hein, il y a trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et puis, il y a les parents. Il y a les parents qui assistent. Et quel changement d'ambiance! Quel changement d'ambiance, quel changement d'atmosphère suite à une parole de Jésus. Talita Kumi, je te le dis, jeune fille, lève-toi. Et ainsi, cette jeune fille va devenir le témoin privilégié pendant toute sa vie de la puissance de vie de Jésus-Christ. Amen. Toute sa vie, elle va être associée à cette résurrection. Elle sera un témoin, malgré elle, où qu'elle aille, son témoignage va se partager, va se diffuser. Et plaise à Dieu ce matin qu'il en soit ainsi aussi pour nous. Que nous soyons ces témoins privilégiés de la vie de Jésus qui est en nous. Dans 2 Corinthiens 4, il est dit ceci, 2 Corinthiens 4, verset 6, et 2 Corinthiens 6, 7, il est dit ceci, « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu » dans la personne de Jésus-Christ, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. La puissance de résurrection, la puissance de Dieu qui est en nous se manifeste et plaise à Dieu que nous soyons ses témoins comme cette jeune fille de la résurrection de Jésus. Alors on revient à notre premier texte, celui qui a été interprété par les enfants, cette résurrection d'un fils unique de la veuve de Naïn, Luc 7, 11, 17. On ne va pas relire ce texte, il nous a été proposé là aussi par les enfants, mais là, nous sommes en Galilée, nous sommes en Galilée, à un village ou une ville qui s'appelle Naïn. Pour ceux qui ont la carte là aussi dans la tête, c'est au sud-est de Nazareth, donc tout près de la ville de Jésus. Et comme dans toutes les villes et tous les villages, dans le vôtre, dans le mien, on pourrait dire que la vie est rythmée par les saisons, par les fêtes religieuses, par les mariages, par les enterrements. C'est l'histoire d'un village comme les autres. Sauf que le jour où on a ce récit, il y a deux événements en même temps particuliers qui vont s'y produire. C'est pas un jour ordinaire, il y a deux événements. D'un côté, il y a la présence de Jésus, et la Bible dit qu'il y avait une assez grande foule, donc il y avait quand même pas mal de monde qui était avec lui, il y avait des disciples. Et puis, de l'autre côté, en même temps, eh bien, c'est la présence d'une veuve qui enterre son fils, accompagnée d'un grand nombre d'habitants. Et on pourrait dire que toute la ville est dehors. Certains sont avec Jésus, et puis d'autres eh bien, sont là avec cette veuve pour accompagner donc cette femme. D'un côté, il y a un cortège de vie, il y a un cortège d'espérance, il y a un cortège de joie, hein, il y a certainement une exaltation, une émulation avec le cortège de Jésus, les disciples, la foule qui est là. Et puis de l'autre côté, c'est un cortège de mort, un cortège de pleurs, un cortège de tristesse. Mais ces deux cortèges vont se rencontrer à un moment donné. Ces deux cortèges vont se rencontrer. C'est une image aussi d'un quotidien dans nos vies, hein. C'est l'image d'un quotidien dans nos vies où nos joies et nos tristesses se mélangent. En une journée, on peut passer de la joie à la tristesse en quelques instants, et puis revenir, etc. Où la mort et la vie se côtoient, où l'espérance et le doute s'entremêlent. Notre vie n'est pas noire ou blanc, on le sait. Hein, il y a toutes ces zones où on est partagé, on est déboussolé, on ne sait plus où on en est, et puis des fois on est pleinement convaincu, etc. Soit des fois on appartient à ce cortège de joie, de paix, soit des fois c'est ce cortège de tristesse. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les deux cortèges eh bien, vont se rencontrer. Et peut-être que ce matin, eh bien, je suis dans un cortège ou un autre, mais de toute façon, eh bien, à un moment donné ou à un autre, eh bien, je peux échanger hein, de cortège. Je peux échanger de cortège. Mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que Jésus va réunir les deux cortèges. Cortège de joie et cortège de tristesse. Comment? Luc 7, 13 nous dit que, voyant cette veuve, Jésus va être ému de compassion. Il est ému de compassion. Et on retrouve souvent dans les Écritures, eh bien, cette réalité qui va faire bouger le bras de Jésus, c'est sa compassion, c'est son amour. Hein, vous connaissez les textes, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est Matthieu 9, 36. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion, il guérit les malades. Matthieu 20, 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils le suivirent. Amen. Alors j'ai regardé une définition de la compassion. C'est la reconnaissance de la douleur d'autrui, animée par un profond sentiment d'amour, entraînant une réaction de sollicitude, de solidarité active. Ça va loin la compassion, hein ? C'est pas simplement d'être touché émotionnellement par une situation qui nous attriste, mais ça va jusque eh bien, le secours, ça va jusque l'aide, ça va jusque qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Comment est-ce que je peux t'aider, etc. Ça va jusque-là, bien sûr, la compassion. Et là encore, on remarque dans le texte que Jésus va manifester cette compassion par deux paroles. Il y en a une qu'il adresse à cette veuve et une qu'il adresse à ce jeune homme qui est mort. On l'a vu tout à l'heure. Il est rentré, il était couché. Je ne sais pas s'ils ont pris comme civière, hein, mais j'en sais rien. En tout cas, c'est à peu près ça, hein, parce que dans nos textes, c'est marqué un cercueil. Alors nous, on voit tout de suite un cercueil, une boîte, hein, mais c'est surtout ça, c'est une civière sur laquelle hein, le mort était mis avec des bandelettes, etc. Puis voilà. En tout cas, Jésus adresse une parole qui nous étonne quand même. Hein. Ne pleure pas. Hein, c'est ce que Jésus va dire à cette femme. Ne pleure pas. Qui peut se permettre de dire à une veuve dont le fils unique vient de mourir, ne pleure pas. Qui peut se permettre? Qui peut se permettre de dire une telle parole vis-à-vis d'une femme qui vit certainement des drames humains les plus terribles qu'on puisse vivre, hein, perdre un enfant. C'est quelque chose qui est contre nature. Excusez-moi, on perd ses parents, mais on perd pas son enfant. C'est pas dans l'ordre naturel. C'est pas dans l'ordre naturel des choses. Et cette mère, quelles que soient les paroles qu'elle entend, quel que soit là aussi l'accompagnement sincère des habitants, elle est inconsolable. Le monde vient de s'effondrer pour elle. Et elle n'a plus d'avenir, elle n'a plus de perspective. C'est terminé, c'est fini, c'est fini. Pourtant, la puissance de résurrection de Jésus va lui redonner de l'espérance à un avenir. Et c'est ce que Jésus veut faire aussi pour nous, y compris dans les situations les plus désespérées, lorsque nous-mêmes, eh bien, il nous semble qu'il n'y a pas d'avenir. Il nous semble eh bien que la situation est désespérée, qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. J'ai trouvé ce proverbe 23-18, « Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. » Il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Notons quand même une petite remarque ici, c'est que cette veuve n'a rien demandé. N'a rien demandé. Je crois que son chagrin la submerge. L'envahit tellement, et c'est compréhensible, parce que pour elle, tout est fini, elle ne peut rien demander, elle est prisonnière, et je ne dis pas ça d'une mauvaise manière, c'est tout à fait compréhensible, elle est prisonnière de son chagrin, et qu'est-ce que vous voulez qu'elle demande? Elle n'a rien demandé, et pourtant, Jésus va agir en sa faveur. Amen. Même lorsque nous sommes submergés par l'épreuve, par le chagrin, par la détresse, même lorsque pour nous comme cette femme, eh bien nous enterrons des situations, eh bien Jésus a autorité, a le pouvoir de dire ne pleure pas, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de ta situation. Parce qu'il y a une deuxième parole qui manifeste la puissance de résurrection de Jésus, elle est adressée au jeune homme, cette parole. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et ce texte, c'est la première résurrection de Jésus de manière chronologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais la foule n'a entendu une telle parole. Même dans l'Ancien Testament, hein, il y a eu aussi trois résurrections. Est-ce que vous vous rappelez des trois résurrections qu'il y a dans l'Ancien Testament? Vous vous rappelez? Oui, de Sarepta. Voilà, hein. Donc là aussi, il n'y a pas de parole, hein. On voit le prophète, etc. Qui... Ensuite, il y en a une autre, le fils de la femme sunamite. Il n'y a pas une parole qui est dite. Et puis le dernier, alors là, il est extraordinaire, moi je trouve que c'est plus extraordinaire. Hein. C'est cet homme mort qu'on jette dans la fosse où les eaux d'Élysée sont là. Vous vous souvenez? Et il ressort, il est ressuscité. Il n'a rien demandé à personne. Et pourtant, mais là encore, il n'y a aucune parole qui est prononcée. Ce qui change avec Jésus, c'est que Jésus s'adresse et dépasse le cadre de la mort, puisque sa parole est créatrice. Et ce matin, bien, seules les paroles de Jésus sont esprit et vie. Il n'y a pas une situation qui soit désespérée ou que Jésus ne puisse intervenir. Quand Jésus a dit à ces trois morts, lève-toi, marche, etc., bien, ces morts se sont levés, ils ont obéi. Parce que la parole de Jésus est esprit et vie. Le psaume 33, verset 9, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. Alors peut-être que ce matin, on est en train d'enterrer certains projets, certaines prières, qui nous semblent en tout cas impossibles à se réaliser. On a essayé, on a tenté, on a persévéré un petit peu, et puis à un moment donné, eh bien, on est comme cette femme, on suit le cortège, et puis on va enterrer. C'est une image, bien sûr, nos prières, notre espérance, on va enterrer nos projets parce qu'ils nous semblent, eh bien, que ce soit impossible à réaliser. On se résigne et on se dit, de toute façon, c'est fini. Et je veux dire ça comme ça, on ne pense même pas en parler à Jésus. On ne pense même pas en parler au Seigneur. On est tellement pris par notre chagrin, par notre détresse, par ce qu'il vient nous tomber dessus. Eh bien, c'est sans compter sur la puissance de vie de Jésus-Christ. Amen. Sa puissance de résurrection. Il a toute autorité ce matin pour nous dire, eh bien, ne pleure pas. Et de dire à notre situation, comme pour ce jeune homme, eh bien, voilà, maintenant, la pierre va être roulée et puis ta vie va être transformée, va être changée. Parce que moi, eh bien, j'ai autorité. Amen. J'ai autorité. Et puis, on termine le troisième récit. On va pas tout le relire non plus. C'est dans Jean 11. Là, c'est la résurrection d'un ami de Jésus. Il a dit que c'était son ami. Hein, il s'appelle Lazare. Il s'appelle Lazare. Alors, où sommes-nous là? Eh bien, on a changé de région. On n'est plus en Galilée, hein, mais on est en Judée, près de Jérusalem. On est à Béthanie. Il y a 3 kilomètres, hein, Jérusalem, Béthanie, etc. Et là, on est dans une autre région. Et puis, chronologiquement, c'est la troisième résurrection. C'est la troisième résurrection. Béthanie, ça veut dire la maison des dattes. Je ne sais pas si vous aimez les dattes. Moi, j'aime bien les dattes, hein, c'est bon. Mais il y a un petit détail qui est ajouté. La maison des dattes non mûres. Ah, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Ou alors, maison de l'affligé. Vous vous souvenez quand Jésus donc passe devant un figuier où il s'attend à retrouver donc du fruit, hein, et il est déçu. Il est tellement déçu qu'il va maudire le figuier. Hein. Et cette ville de Béthanie peut faire référence dans nos vies à tous nos espoirs déçus, tout ce qui n'est pas arrivé comme on le pensait, comme on l'avait prévu, comme on l'avait, j'allais dire, mis sur un plan, etc. Là encore, ça a été bouleversé et on ne sait plus trop où on en est. On avait prévu que ça se passerait comme ça, on avait espéré, et puis il y a eu un résultat d'examen qui a dit que ben, ce n'était pas comme ça, et puis il y a une situation, il y a une parole qui nous a dit « ah ben non, finalement, ben, c'est le contraire ». Et là, bien, on est un petit peu comme dans cette situation de Béthanie, hein, on s'attendait à recevoir quelque chose, et puis on a été déçus. Et ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et là encore, ce sont des moments difficiles à vivre, hein. Vous l'avez vécu certainement vous aussi, hein, quand on vous dit bien une certaine chose, on va prendre un cas général, un traitement médical, on dit c'est bon, ça va marcher, etc. Alors là, on est au top, hein, dans l'ascenseur spirituel, on est au plus 50, au plus 60, et puis le traitement ne marche pas. Et on dit, ben, madame, monsieur, il n'y a peut-être plus d'espoir. Et là, on se retrouve au moins 50. L'ascenseur spirituel est descendu. On a été déçus. Et on ne sait plus du tout, bien sûr, où on en est. Mais là encore, c'est sans compter sur la puissance de vie de Jésus. Amen. Alors, comment a lieu ce miracle? Eh bien, là encore, c'est un récit qui nous interpelle, mais tout part toujours et tout commence encore une fois par une parole de Jésus. Et cette parole, c'est le fil conducteur. C'est une parole qu'à un moment donné, certains vont oublier parce que la première parole que Jésus va dire lorsqu'on va l'informer par Marthe et Marie que leur frère Lazare est malade, qu'est-ce que va dire Jésus? Vous vous souvenez, hein? Il va dire, Jésus, eh bien, cette maladie n'est pas pour la mort. Il le dit tout de suite. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle servira à glorifier, hein, le nom de mon Père. Et tout de suite, Jésus révèle une parole. Parole de vie, une parole d'espérance, une parole de résurrection. Et c'est une parole qui est forte, mais qui va susciter, bien sûr, là encore, de nombreuses réactions. Elle va même être comme oubliée à un certain moment, cette parole. Dans certains événements, on va oublier que Jésus avait dit « mais cette maladie n'est pas pour la mort ». Alors là aussi, le cheminement est incompréhensible. Hein. Quand Jésus entend, quand on le prévient que son ami Lazare est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il reste 2 jours de plus sur place. Seigneur, écoute, hein, avec les SMS, quelqu'un est malade, nous on fonce tout de suite. Mais Jésus, lui, reste 2 jours de plus sur... C'est incompréhensible. On ne comprend pas, là aussi, le plan de Dieu. Et il nous arrive parfois de ne pas comprendre comment Jésus agit. Il dit, Seigneur, attends, mais je t'interpelle, et puis toi, il semble que c'est encore pire. Et puis, il annonce la mort, c'est Jésus qui annonce la mort de Lazare, hein, vous relirez le texte aux disciples, et alors les disciples, ils ne comprennent rien du tout. À la fin, ils disent, bah, écoute, on va mourir avec lui aussi, voilà. C'est bien, hein, on va mourir avec lui. Il y a une incompréhension totale, il y a le flou. Pourtant, Jésus avait dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais les circonstances font que, le brouillard fait que, etc., bien, on ne sait plus trop où on en est. Hein, il rencontre Marthe, et puis celle-ci bien dit à Jésus que s'il avait été là, si tu étais parti au bon moment, Jésus, hein, si tu n'avais pas pris 2 jours de plus, eh bien tu serais arrivé quand mon frère était encore malade, là tu l'aurais guéri. C'est ça qu'un petit peu, et il y a ce dialogue avec Jésus, etc. Et puis dans ce texte, il est dit par 2 fois, c'est impressionnant, que Jésus va être profondément indigné. Quand il va voir, eh bien, ces juifs qui pleurent, etc., etc. Alors, on se pose des questions, mais pourquoi Jésus est-il indigné? De quoi est-il indigné? Eh bien, notre premier texte, si vous en souvenez, de la veuve de Naïn, nous dit que les paroles qui ont été citées, le miracle qui a été cité, va être répandu dans la Judée, à Jérusalem. Ça veut dire que tous les habitants de Naïn, de ici Béthanie, savaient que Jésus avait déjà ressuscité ce fils de cette veuve. Ils étaient au courant. Et ce que Jésus ici est profondément indigné, c'est de leur incrédulité. C'est ça qu'il combat. C'est pas la personne en elle-même. Mais il est profondément indigné que malgré les miracles qu'il avait déjà faits, eh bien, cette foule soit encore là aussi incrédule. Aussi incrédule. Une bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est Jean qui dit ceci. Au commencement était la parole. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lazare, il a un beau prénom, ça veut dire « Dieu est mon secours ». Et je pense que ce matin, nous pouvons tous nous identifier à Lazare. Seigneur, eh bien, tu es mon secours. Et là encore, comme pour le jeune homme, comme pour cette fille de 12 ans, ils n'ont rien demandé. Lazare ne pouvait rien demander puisqu'il était mort. Et c'est là où on a du mal à comprendre la puissance de vie, de la résurrection, de la parole de Jésus qui, eh bien, agit même dans des situations où nous ne demandons rien parce que ben on est comme mort spirituellement, mais Jésus agit quand même. Mais Jésus agit quand même. Alors, nos trois textes nous rappellent quelque chose d'important ce matin, c'est que finalement, eh bien, Jésus, son secours, il est accessible à chacun. Dans un texte, eh bien, il secourt une femme. Dans un autre, c'est un couple. Dans un autre, c'est une relation amicale, c'est toute une famille, etc. Et tous ceux, ce matin, eh bien, qui lui font confiance, pourront vivre également ces paroles de vie et de résurrection. Je vous laisse Ésaïe 55, 11. C'est une parole de Dieu. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Rappelons-nous ce matin que la puissance de résurrection de Jésus sera toujours manifestée par sa parole, parole de vie. Elle est créatrice, cette parole. À partir de rien, Jésus crée. Et puis non seulement il crée, mais il va soutenir ce qu'il crée. Il n'est pas celui qui dit, ben voilà, j'ai créé, débrouille-toi. Mais il va soutenir, il va accompagner par sa parole. Et ce matin, il nous accompagne. Et puis pour nous, cette espérance de la résurrection, 1 Corinthiens 6, 14, « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Amen. Un jour aussi, on va vivre cette résurrection. La parole nous dit que lorsque Jésus va venir nous chercher, eh bien, nous serons là semblables à lui. Amen. Alors ce matin, quelles que soient nos situations, quels que soient nos tombeaux, quel que soit ce que nous vivons, rappelons-nous que la parole de Jésus, elle est créatrice. C'est une puissance de résurrection. C'est une puissance de vie que rien ni personne ne peut empêcher d'agir. Amen. Et c'est ça, la résurrection. Et c'est ça dont nous sommes témoins, aujourd'hui encore, dans ce beau dimanche ensoleillé de Pâques. Eh bien, nous voulons être ces témoignages de sa résurrection. Amen. Amen. On prie quelques instants ce matin. Et puis on va continuer ces moments en terminant par la Sainte Cène. Mais peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin là aussi, bien simplement, de vivre une parole de Jésus, de vivre cette parole de vie, de résurrection, comme dans ces trois récits, eh bien Jésus veut le faire aussi, de la même manière. Te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta parole. Nous te louons de tout notre cœur parce que tu es vivant. Tu es le roi des rois, des seigneurs. Ta parole est créatrice. Tu dis et la chose existe, tu ordonnes et tu la crées, Seigneur. Rien ne peut résister à l'autorité de ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir déjà ce matin sauvés, arrachés des ténèbres par la puissance de ta parole, de guérison, de pardon, de secours. Et nous prions ce matin pour celles et ceux qui vivent encore des situations qui soit sont dans ce cortège de tristesse, de découragement, de résignation. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu te manifestes. Nous voulons que tout ce qui est moquerie autour de nous, tout ce qui est parole destructrice soit expulsé au nom de Jésus-Christ, afin que la foi, Seigneur, puisse être victorieuse. Merci Père éternel, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin avec mes frères et sœurs pour des bien-aimés qui ont besoin simplement d'être renouvelés dans leur foi, de s'attacher à ta parole face à une circonstance particulière, face à un événement qu'ils ont classé comme dramatique, comme mortel. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole, Seigneur, se révèle comme puissance de vie, comme puissance de résurrection, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Y aurait-il quelqu'un qui ce matin bien voudrait voir cette parole de résurrection vivre, faire vivre une situation qui depuis longtemps peut-être pour vous a été classée dans la classe du tombeau, de l'impossibilité, de la résignation? Eh bien Jésus transforme, Jésus change le mal en bien, Jésus est une puissance de vie. Amen. Et il veut ce matin aussi intervenir par la puissance de sa parole. Y aurait-il quelqu'un qui fasse un événement? Oui, oui, je t'ai vu, que le Seigneur te bénisse. En levant son bras, oui, je t'ai vu aussi, que le Seigneur te bénisse. Est-il encore quelqu'un d'autre? Que le Seigneur, eh bien, oui, j'ai besoin aussi de cette parole de résurrection. Oui, je t'ai vu, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Seigneur, elle est belle, ta parole. Elle est constructive. Elle vient de toi. Et nous voulons confesser maintenant, ce matin, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans les cœurs, dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ces bien-aimés qui demandent maintenant ton secours, comme Lazare n'avait rien demandé, mais ces bien-aimés demandent ton secours, comme Jaïrus l'ont demandé. Et ils font passer, Seigneur, leur foi bien au devant de tout ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Alors fais leur grâce maintenant, dans le nom de Jésus, que le cortège de vie s'anime dans leur cœur, que l'espérance et la foi soient retrouvées, et qu'à partir de ce jour, il y ait d'autres chemins qui soient tracés pour eux. Rien n'est impossible à notre Dieu, et nous t'en bénissons encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sainte-Seine, ce matin, peut-être on pourrait demander à notre frère Marc, à